Le 17 mars 1987, Gilles Deleuze prononce devant les étudiants de la FEMIS une conférence « Avoir une idée en cinéma » qui deviendra fameuse sous le titre « Qu'est-ce que l'acte de création ?» Il commence par des qualifications et des distinctions entre domaines, comme il le fera quelques années plus tard avec Félix Guattari dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» Une idée se trouve par là, d'emblée, vouée à tel ou tel domaine. C'est tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en philosophie, tantôt une idée en science. Ainsi, la philosophie, dit Deleuze, consiste à créer ou bien inventer des concepts. Alors que le cinéma invente, lui, des blocs de mouvement duré. La peinture invente un tout autre type de bloc. Ce ne sont ni des blocs de concepts, ni des blocs de mouvement duré, mais des blocs ligne-couleur. La musique invente un tout autre type de bloc, tout aussi particulier. La limite commune à toutes ces inventions, ajoute Deleuze, c'est la construction des espaces-temps. Et c'est ainsi que, s'arrêtant sur plusieurs exemples touchant le cinéma, opposant par là l'art à l'information et à la communication, et revenant sur le nouveau destin propre aux sociétés de contrôle, posant en cela que la contre-information n'est effective que lorsqu'elle devient un acte de résistance, Deleuze en vient à formuler une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Il éclaire ce rapport qu'il dit « mystérieux » par ce qu'il appelle un beau concept philosophique de Malraux, disant une chose très simple sur l'art, que c'est la seule chose qui résiste à la mort. Ainsi, l'art est ce qui résiste, même si ce n'est pas la seule chose qui résiste. Revenant sur le cinéma de Strobuyer, Deleuze développe finalement à partir de leur œuvre les deux faces de l'acte de résistance. Il est humain et c'est aussi l'acte de l'art. Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. Le mystère de ce rapport ressort en dernier lieu des mots énigmatiques de Paul Klee, que Deleuze a souvent aimé invoquer sur le peuple qui manque, ce peuple qui n'existe pas encore et auquel l'œuvre d'art fait appel. Il peut paraître étrange que la philosophie n'entre pas dans ce destin de la résistance, alors que c'est sa force même de poser ce rapport entre l'art et la lutte des hommes. Et si la conviction de Malraux sur l'art comme la seule chose qui résiste à la mort, est qualifiée par Deleuze de philosophique, elle n'en suppose pas moins que l'art ferait par là ce que ne fait pas la philosophie. Dans ce tournoiement de positions et de mots, il faut voir, semble-t-il, bien plus qu'une apparence de contradiction, l'indice d'un rapport fondamentalement indécis entre l'art et la philosophie, dont toute l'œuvre de Deleuze témoigne, pour le bien mutuel de l'un et de l'autre, et qui semble valoir la peine d'être un peu précisé. Alors, j'ai déjà insisté ici et là sur cette indécision, et je vais simplement rappeler d'abord quelques tours et détours pour tenter de mieux la cerner, ensuite, à travers les deux derniers livres de Deleuze, où elle atteint un point d'effervescence, critique et clinique, et l'épuiser. On sait à quel point, au nom de l'image de la pensée inlassablement dressée par Proust contre celle de la philosophie, Deleuze a insisté dans Proust et les signes, dès 1964, sur la rivalité ainsi ouverte, écrivant par exemple « La philosophie, avec toute sa méthode et sa bonne volonté, n'est rien face aux pressions secrètes de l'œuvre d'art. » Ou aussi bien, au nom de la nécessaire violence propre à la pensée, « plus important que le philosophe, le poète. » Mais Deleuze n'en précise pas moins, d'un retournement qui ouvre une perspective affolée à une opposition ainsi destinée à devenir d'une ambiguïté souveraine et annonçant par là sa qualification future de l'affirmation de Malraux, il se peut que la critique de la philosophie, telle que Proust l'amène, soit éminemment philosophique. On sait aussi combien, 4 ans plus tard, dans Différences et répétitions, reprenant d'un livre à l'autre pour un chapitre central ce même intitulé « L'image de la pensée », Deleuze s'est élevé de façon radicale contre les postulats, il en décompte 8, qui composent en philosophie une image de la pensée. image en général, qui constitue le présupposé subjectif de la philosophie dans son ensemble. Sans doute, image vaut ici pour représentation, mais le terme d'image reste bien alors visé en lui-même comme icône à détruire. Pour compliquer la donne, c'est à l'art encore, dans ce livre dont l'avant-propos compte tant de références aux écrivains, que Deleuze revient en conclusion, pour tendre à la philosophie le modèle d'une transformation propre à un art singulier. La théorie de la pensée est comme la peinture, elle a besoin de cette révolution qui la fait passer de la représentation à l'art abstrait. Tel est l'objet d'une théorie de la pensée sans image. Il est frappant qu'au fil de l'ouragan précipité 10 années durant par la rencontre avec Félix Guattari, un tel dilemme paraisse s'être comme évanoui. Deleuze pourra dire « Ma rencontre avec Félix Guattari » a changé bien des choses. Dans l'Anti-Oedipe, comme dans Mille Plateaux, toutes sortes d'œuvres d'art se trouvent régulièrement convoquées, soutenant librement des déroulés conceptuels qu'elles semblent aussi bien susciter. La pensée avec ou sans image ne semble plus comme telle un souci. Des images affluent de toutes parts, comme pensées, des visions pressantes et plurielles dont la réalité de l'art, alors surtout littérature et musique, pourrait être la ligne de fuite la plus sûre, comme en témoigne, d'un grand livre à l'autre, de l'Anti-Oedipe à Mille Plateaux, leur Kafka pour une littérature mineure. Aussi est-ce tout naturellement que Deleuze va pendant des années qui suivent consacrer ses prochains livres à des arts d'image, peinture et cinéma. Comme s'il s'agissait désormais de remplir positivement l'image de la pensée, par l'art des images elles-mêmes, devenant ainsi le garant de la philosophie comme art. Le livre sur Bacon, Logique de la sensation, dont Deleuze a souligné le plaisir singulier qu'il avait trouvé à l'écrire, est exemplaire en cela à bien des égards. On peut sans trop de difficulté y reconnaître un autoportrait fantastique dont Bacon lui permet de réaliser à son profit l'image, tel qu'il l'avait quelques années plus tôt cerné dans la conclusion ajoutée à son livre sur Proust, sous les mots « Présence et fonction de la folie, l'araignée ». Proust y devenait le narrateur araignée dont la toile même est la recherche en train de se faire, un énorme corps sans organes. C'est cette même image que Deleuze retrouve dans « Logique de la sensation » grâce à la fonction de la figure qui est l'improbable même, et précisément le corps sans organes. Figure inlassablement développée à travers maint tableau de Bacon, et qui le reconduit vers Proust pour qualifier au plus près la démarche du peintre et ce qu'il cherche en lui. Bacon, quand il récuse la double vue d'une peinture figurative et d'une peinture abstraite, se met dans une situation analogue à celle de Proust en littérature. Proust, en effet, ne voulait pas d'une littérature abstraite, trop volontaire, entre parenthèses, philosophie, et pas davantage d'une littérature figurative, illustrative ou narrative, apte à raconter une histoire. Ce à quoi il tenait, ce qu'il voulait amener au jour, c'était une sorte de figure, arrachée à la figuration, dépouillée de toute fonction figurative. Une figure en soi, par exemple, la figure en soi de Combray. Il parlait lui-même de vérité écrite à l'aide de figures. On est aussi frappé que dans ce livre, les références soient pour l'essentiel faites à des écrivains et à des peintres, servant à parfaire l'image que Deleuze cherche à dresser de Bacon. Kafka, Beckett, Conrad, Burroughs, Lewis Carroll, Moritz, Turner, Cézanne, Artaud, Van Gogh, Michaud, Gauguin, D.H. Lawrence, à propos duquel Deleuze rappelle que, à ses yeux, la pomme de Cézanne est plus importante que l'idée de Platon. Ainsi, la figure devenant par le geste du peintre, comme le modèle des requalifications du concept propre à la philosophie, Deleuze dégage à travers ses images de peinture sa méthode renouvelée de philosophie. Il dresse sa propre et bonne image de la philosophie comme art, dont l'art ouvre la dimension. Et ainsi, passant de la logique de la sensation à celle de l'image-mouvement et de l'image-temps, Deleuze accomplit au fil du cinéma un tour des images du siècle dont la virtualité de plus en plus aiguë sert d'un tour d'écrou supplémentaire l'avancée de sa philosophie. Jusqu'à ce livre entrepris sur le virtuel ou autour du virtuel 10 ans plus tard, dont seules quelques pages sont restées, témoignant du projet d'aller au plus extrême d'une pensée possible de l'image comme incertitude et indétermination. Tout actuel s'entoure d'un brouillard d'images virtuelles. Ce serait sa façon à lui de faire l'image, suivant la formule consacrée de Beckett. Mais entre-temps, s'est joué dans les trois derniers livres de Deleuze une sorte de drame. Drame, c'est le mot par lequel il qualifiait dans l'avant-propos de Différence et répétition l'aventure des concepts. Drame qui porte au plus loin la tension par laquelle, selon ce qu'il écrit dans la lettre préface au livre de Jean Clémartin, Deleuze voulait de façon très classique un philosophe du système, mais supposer que ce système soit une hétérogenèse, ce qui, me semble-t-il, ajoutait-il modestement et fièrement, n'a jamais été tenté. Autant dire, une ouverture sur l'improbable. On sait comment, pour proprement qualifier la philosophie en tant que création de concept, Deleuze a entrepris, dans son dernier livre écrit avec Félix Guattari, « Qu'est-ce que la philosophie ?», de la distinguer et de l'accorder à la fois avec les domaines conjoints de la science et de l'art. Si connu cela soit-il, ça vaut la peine de le rappeler, sous la formulation la plus synthétique que les auteurs en aient donnée. Les trois plans sont irréductibles avec leurs éléments, plan d'immanence de la philosophie, plan de composition de l'art, plan de référence ou de coordination de la science. Forme du concept, force de la sensation, fonction de la connaissance. Concept et personnage conceptuel, sensation et figure esthétique, fonction et observateur partiel. C'est entre ces divisions tranchées que se pose le problème crucial des interférences entre plans qui se joignent dans le cerveau. Interférences extrinsèques d'abord, quand par exemple, un philosophe tente de créer le concept d'une sensation. La règle veut alors que la discipline interférente doit procéder avec ses propres moyens. Mais un second type d'interférence est dite intrinsèque, quand des concepts ou des personnages conceptuels semblent sortir du plan d'immanence qui leur correspondrait pour se glisser sur un autre plan parmi les fonctions et les observateurs partiels ou parmi les sensations et les figures esthétiques et de même pour les autres cas. Il en va ainsi de Zarathoustra chez Nietzsche, de Igitur chez Mallarmé. Ce sont là des plans complexes, difficiles à qualifier. Enfin, les interférences illocalisables, les plus difficiles à concevoir, cherchent à cerner la façon dont chaque discipline entre à sa manière avec en rapport avec un négatif, une non-philosophie, un non-art, une non-science, qui se distingue encore par rapport au plan cérébral, mais ne se distingue plus par rapport au chaos dans lequel le cerveau plonge. C'est alors, en toute fin de parcours, que revient l'ombre du peuple à venir, si proche du peuple qui manque, invoquée à la fin de Qu'est-ce que l'acte de création, ombre que semblent partager ces trois grands domaines un peu plus tôt qualifiés de chaoïdes, les trois filles du chaos. Un exemple se trouve à travers ce livre, comme dans d'autres livres antérieurement de Deleuze, servir de figure élective à ces interférences intrinsèques ou illocalisables, qualifiées aussi d'indécidables. Il s'agit d'Henri Michaux, sur lequel je dois revenir, même si je l'ai déjà fait par le détail dans le cadre de l'édition de ses œuvres complètes dans la Pléiade. L'usage fait de Michaux semble ainsi avoir longtemps cristallisé ce qui se précipitera dans les deux derniers livres de Deleuze. Michaux apparaît d'abord de façon stratégique au début de l'Anti-Oedipe, quand il s'agit de donner d'emblée une image de l'invention schizophrénique à travers l'évocation de la fameuse « table à rajout » décrite à loisir par Michaux dans « Les grandes épreuves de l'esprit ». Mais c'est dans le Foucault que la référence à Michaux acquiert une dimension de trouble. En premier lieu, de façon implicite, au moment où, pour qualifier le cœur de la pensée de Foucault, Deleuze recourt elliptiquement un titre emblématique de Michaud. « Un espace du dedans », c'est le titre de la plus fameuse anthologie de poèmes de Michaud, de textes de Michaud, « Un espace du dedans qui sera tout entier coprésent à l'espace du dehors, sur la ligne du pli ». Puis, de façon insistante, sitôt qu'en fin de parcours, dans des pages d'une force de suggestion vibrante, Deleuze s'attache à ressaisir la grande fiction de Foucault, partagée entre le visible et l'énonçable, lumière et langage, mais visant au-delà la pure ligne du dehors. Il y faut, pour l'exemplifier, ce qu'il nomme des singularités de résistance ou des singularités sauvages. D'un côté, la ligne de Melville, de l'autre, la ligne de Michaud. Aux mille aberrations, à vitesse moléculaire croissante. Et reprenant les mots d'espace du dedans, exposant le dehors, Deleuze les éclaire par deux titres encore de Michaud. Le plus lointain devient intérieur, lointain intérieur est un morceau du recueil Plume précédé de lointain intérieur. Donc le plus lointain devient intérieur par une conversion au plus proche, la vie dans les plis, un autre recueil fameux de Michaud. Deleuze y reviendra encore dans un entretien sur son livre, qui est repris dans Pourparlers, postulant avec insistance une relation élective, entre Foucault et Michaud. Et l'insistance est d'autant plus forte qu'elle ne semble pas avoir eu de fondement réel. Michaud est par exemple cité deux fois à peine et de façon triviale dans les quatre volumes des 10 écrits de Foucault. Et c'est ainsi que de Foucault à Leibniz, Michaud servant encore dans le pli de modèle à l'implication entre les deux niveaux microscopiques et macroscopiques de la perception dans les plis, Michaud en viendra à occuper dans Qu'est-ce que la philosophie ? Une place, ou plutôt une fonction, absolument singulière. Fonction de confusion entre le plan de composition de l'art et le plan d'immanence de la philosophie. De sorte à devenir l'exemple princeps de ce qui se trouve ainsi le plus difficile à qualifier, quelque part, entre les interférences intrinsèques et les interférences illocalisables. Michaud est cité 6 fois dans ce livre. Une fois simplement, au nom de l'athlétisme affectif et de l'écriture comme santé. Une seconde fois, logiquement, qu'en envisageant ce qui sépare mais peut aussi relier personnages conceptuels et figures esthétiques, Deleuze et Guattari en viennent à envisager comment dans ces œuvres aux pieds déséquilibrés, Hölderlin, Kleist, Rimbaud, Mallarmé, Kafka, Michaud, Pessoa, Artaud, beaucoup de romanciers anglais et américains, de Melville à Lawrence ou Miller, les deux entités passent souvent l'une dans l'autre, dans un devenir qui les emporte toutes deux, dans une intensité qui les co-détermine. De sorte que ces penseurs sont à moitié philosophes, mais ils sont aussi beaucoup plus que philosophes. Mais dans les 4 autres occurrences, Michaud se trouve cité uniquement en regard de philosophe. D'abord, quand il s'agit de définir le rapport entre les concepts et le plan d'immanence. D'Épicure à Spinoza, de Spinoza à Michaud, le problème de la pensée, c'est la vitesse même. Puis, à propos du plan encore, on court sur l'horizon, sur le plan d'immanence, on en revient avec les yeux rouges, même si ce sont les yeux de l'esprit. Même Descartes a son rêve. Penser, c'est toujours suivre une ligne de sorcière. Par exemple, le plan d'immanence de Michaud, avec ses mouvements et ses vitesses infinies, furieux. Michaud se trouve ensuite associé de nouveau à Foucault, quand il s'agit, dans ce qui est peut-être, écrivent les auteurs, le geste suprême de la philosophie, de ressaisir le mouvement infini du plan et de parvenir ainsi à le penser continuellement comme dedans et dehors à la fois, tel que l'a fait par excellence Spinoza, le Christ des philosophes. Enfin, quand il faut en dernier lieu penser le concept dans son rapport essentiel avec le chaos, soit atteindre le plus vite possible à des objets mentaux déterminables comme êtres réels, Michaud se trouve cette fois associé à Spinoza et à Fichte, dès lors que, comme il dit, ce qui suffit aux idées courantes ne suffit pas aux idées vitales, celles qu'on doit créer. On comprend que ce soit à partir de ce point de confusion entre philosophie et art dont Michaud est ainsi devenu pour Deleuze l'emblème énigmatique, qu'il faille situer le trouble plus extrême qui se propage à travers les deux derniers livres de Deleuze. On peut tenter d'abord de l'esquisser à travers deux affirmations, l'une qui introduit la partie art de « Qu'est-ce que la philosophie ?», l'autre la phrase de Proust qui sert d'exergue à Critique et Clinique. La première reprend la thèse centrale portée à travers Malraux dans « Qu'est-ce que l'acte de création ?» L'art conserve, et c'est la seule chose au monde qui se conserve. La seconde phrase qualifie la littérature et l'art à travers elle, c'est la phrase de Proust, « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ». Étrange livre pour peu qu'on y songe que Critique et Clinique. D'un côté, fort de son chapitre d'ouverture, la littérature et la vie, il se présente comme un ensemble d'essais variés sur la littérature qui viendrait, on peut l'imaginer, parachever la masse considérable de textes et de livres déjà consacrés au fil du temps par Deleuze à des écrivains, de sorte à configurer à l'intérieur de l'ensemble de l'œuvre un équivalent massif, quoique fragmentaire, de son grand travail systématique portant sur l'art du cinéma. Il est d'autre part important de souligner que parmi les 17 textes qui composent ce livre, 7 sont inédits, ce qui s'émoigne d'autant, alors que Deleuze était déjà affaibli par la maladie, de leur nécessité, de leur urgence. Ensuite, 6 de ces 17 textes n'en sont pas moins consacrés à des philosophes. Kant, Nietzsche, Heidegger, Platon, Spinoza. Enfin, 3 d'entre eux ouvrent des confrontations directes entre des œuvres philosophiques et des textes d'origine diverse. 4 formules poétiques pour Kant, Saint Paul pour Nietzsche, Alfred Jarry pour Heidegger, et c'est le plus réjouissant. L'effet décisif, en l'occurrence, et bien au-delà à travers l'ensemble du livre, est ainsi le processus de contamination, implicite plus qu'explicite, mais d'autant plus puissant, qui se tresse entre ces œuvres si diverses, qui sont toutes, qu'elles soient de littérature ou de philosophie, des œuvres de langage, et qui tiennent de cette unité d'expression une communauté indéfectible d'art et de pensée, de pensée comme art, d'art comme pensée. Soulignons, dernier point, que 4 de ces textes sont consacrés à des auteurs auxquels Deleuze a déjà consacré un ou plusieurs livres, ce qui souligne leur valeur d'insistance et qu'un effet projectif se trouve ainsi porté rétroactivement sur l'ensemble de l'œuvre. Mais surtout, on s'arrêtera sur le texte final, Spinoza et les trois éthiques, auxquels sa position confère aussi une valeur stratégique. On se rappelle évidemment que Deleuze publie en 68 Spinoza et le problème de l'expression, où il cerne en appendice la question des deux éthiques dans l'éthique entre la continuité des propositions démonstratives et les scolies. Il revient rapidement sur ce point en 1981 dans la deuxième édition de son Spinoza philosophie pratique. Dans sa lettre à Reda Benzmaya sur Spinoza, 1989 reprise en pourparlers, il introduit l'idée d'une troisième éthique et ainsi de 3 langues mêlées correspondant à 3 niveaux conceptuels distincts. C'est cette idée qu'il développe ici à nouveau en revisitant sous cet angle, en particulier à travers le livre 5, la force expressive et le génie philosophique exemplaire de l'éthique. Sans entrer dans le détail vertigineux de ce texte admirable, rappelons que Deleuze y distingue à travers les 3 éthiques les signes ou affects, les notions ou concepts et les essences ou percepts. On remarque aussitôt que ces derniers, les percepts, se trouvent désormais seuls dotés de la vitesse absolue qui qualifiait le concept 2 ans plus tôt dans « Qu'est-ce que la philosophie ?». Le concept n'étant plus ici affecté que d'une vitesse relative. On se rappelle aussi d'autre part que percept était alors un des 2 termes qui servait, combiné avec affect, à qualifier, par opposition au concept propre au plan d'immanence de la philosophie, le plan de composition de l'art dans le livre antérieur. Citons simplement quelques lignes qui témoignent de ce déport inspiré par la vision des essences comme pure figure de lumière. on note le retour en force de ce mot de figure, si central dans l'approche de Proust et de Bacon. Il nous semble que le livre 5 témoigne de cette pensée irréductible à celle qui se développe par notions communes autour des quatre premiers livres. Si les livres, comme dit Blanchot, ont pour corrélat l'absence de livres, ou un livre plus secret, fait de chair et de sang, le livre 5 peut être cette absence, ou ce secret, dans lequel les signes et les concepts s'évanouissent, et les choses se mettent à écrire par elles-mêmes, et pour elles-mêmes, en franchissant des intervalles d'espace. Comme si Spinoza s'accomplissait ainsi à la façon d'un écrivain. On est aussi frappé, au regard de distinctions telles, que dans son texte sur T.E. Lawrence, Deleuze distingue d'un côté les images ou visions, de l'autre les entités ou abstractions, spirituelles et critiques. Ces dernières sont très proches des concepts, même si Deleuze n'emploie pas le mot. Mais elles demeurent pourtant des émotions ou des affects, et par là se rapprochent aussi de ce dont elles se distinguent. Le passage entre littérature et philosophie s'effectue ainsi dans Critique et Clinique au point qu'il devient difficile de les distinguer, saisies comme elles le sont, dans un même travail d'invention et de conception par rapport à l'autre langue qu'elles visent comme par rapport au jugement qu'elles suspendent et à l'utopie qu'elles portent. C'est comme si Deleuze passait ici au-delà des interférences intrinsèques pour dessiner entre littérature et philosophie une sorte de plan commun, plan d'immanence et de composition mêlée, qui ne relève pourtant pas de l'indiscernabilité des interférences illocalisables. On le sent à l'élan qui lie les textes entre eux, au tressage qui s'effectue, multiplement, aux mots qui les travaillent. On remarquera aussi que, contrairement au partage entre matière d'expression que Deleuze souligne dans « Qu'est-ce que l'acte de création ?», ce que je vous ai lu au début, pour distinguer par exemple la peinture de la musique et chacune du cinéma autant que pour spécifier la philosophie, il s'attache à dégager à travers critique et clinique une peinture et une musique propres à l'écriture et à considérer les écrivains comme autant de coloristes et de musiciens. Alors, qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas de faire dire à Deleuze autre chose que ce qu'il a pu dire, de sembler le faire se contredire, mais de faire comprendre que ce qui peut sembler contradictoire est vraiment ce qu'il dit, ce qu'il ne peut dire autrement qu'en paraissant se contredire pour arriver à dire ce qu'il veut vraiment dire. Un texte est central à cet égard dans Critique et Clinique. Bégaya-t-il ? Deleuze y reformule son affirmation initiale que le véritable écrivain est celui qui, travaillant la langue commune qu'il a reçue en héritage, fait bégayer cette langue, de sorte à inventer dans sa langue une autre langue, cette langue étrangère invoquée par Proust comme celle des beaux livres et placée par Deleuze en exergue du sien. Si bien qu'il faut comprendre que faire bégayer la langue pour Deleuze, ce n'est pas seulement de Michaud à Beckett, de Gerasim Luka à Céline, de Mandelstam à Bieli à Klebnikov, recenser les états extrêmes de ces bégaiements avérés qui constituent une sorte de cœur vibrant de la littérature comme telle, mais puisqu'il n'y a sans doute pas de philosophie et de philosophe qui puisse à proprement parler faire bégayer sa langue au risque de se dénier elle-même, c'est aussi et avant tout pour Deleuze se tenir en vue d'une telle exigence par les variations, les détours, les emportements de son style propre, un style unique, sa langue étrangère à lui, accordée à toutes les stratégies mélangées de ce livre composite, dans lequel littérature et philosophie continuellement s'assemblent, finissant par sembler ne former qu'une même matière. Peut-être est-ce là ce qui n'avait jamais été tenté, la perpétuelle hétérogenèse du système. Mais il y a un livre encore, un petit livre, dans lequel s'incarne l'avancée extrême de la tentative. L'épuisé est le texte où Beckett, prenant de façon extensive le relais des irruptions ponctuelles de Michaud, Deleuze aura poussé le plus loin cette confusion entre la littérature, l'art et la philosophie, recevant de leur conjonction sa dimension d'art. Achevé d'imprimer presque jour pour jour, un an plus tôt que Critique et Clinique, on ne sait ou au moins je ne sais comment l'écriture de L'Épuisé s'est accordée à celle des chapitres inédits du dernier livre, en particulier aux deux textes que j'ai, sur lesquels j'ai insisté, Bégaya-t-il et Spinoza et les trois éthiques. On pense au premier texte parce que il fait largement écho, en insistant sur Beckett, aux pages qui concluent L'Épuisé, et on pense au second parce que la seule référence philosophique substantielle de ce commentaire des pièces pour la télévision de Beckett revient à souligner chez L'Épuisé, celui qui en a fini avec le possible, un spinozisme acharné. Épuiser le possible, soit Dieu, l'originaire, l'ensemble du possible, converti en rien. Il est du reste frappant qu'une même tripartition formelle et ascendante conduise dans le texte sur Spinoza des signes aux affects, aux notions communes ou concepts, puis aux essences ou perceptes, et dans l'analyse de Beckett, d'une langue à une autre. Comme s'il s'agissait dans un cas comme dans l'autre, dans l'œuvre d'art comme dans l'œuvre de philosophie, de toucher le point d'abstraction sensible le plus radical pour qu'une identité s'établisse entre deux modalités d'écriture et de pensée. Se développe ainsi chez Beckett, d'abord la langue des noms, une langue très spéciale, atomique, disjonctive, coupée, hachée, où l'énumération remplace les propositions. Ensuite, la langue des voix, ondes ou flux qui pilotent et distribuent les corpuscules linguistiques. Enfin, la langue des images, visuelles et sonores, et des espaces. À travers les deux premières et contre elles, cette troisième langue libère des limites immanentes en créant de temps en temps une image qui achève tout le possible. Il y a donc chez Beckett quatre façons de l'épuiser. Former des séries exhaustives de choses, tarir les flux de voix, exténuer les potentialités de l'espace, dissiper la puissance de l'image. C'est pourquoi ce qui se prépare dans les romans et le théâtre comme à la radio s'accomplit avec la télévision. Au fil des quatre pièces pour la télévision de Beckett, dont la description et le découpage composent la première partie de ce petit livre, dont l'essai de Deleuze forme la seconde, de sorte que leur analyse permette de dérouler pas à pas la courbe de l'épuisement, tout tend ainsi dans ce processus vers l'image. À proportion de la lassitude de plus en plus grande éprouvée par Beckett, Deleuze y insiste, envers les mots. D'où le caractère exemplaire des quelques mots qui achèvent ce livre aussi minuscule qu'essentiel intitulé « L'image ». C'est fait, j'ai fait l'image. L'image faite pour être à son tour dissipée, comme cela s'accomplit dans la quatrième des pièces de Beckett, « Nacht und Träume », à travers le rêve de l'insomniaque. C'est là qu'il faut serrer de plus près le texte de Deleuze pour y relever une suite de noms, de termes, de propositions. Il touche d'un côté la réalité ou l'irréalité de l'art, de l'autre la qualification des différents arts. Soulignons d'abord combien, dans son analyse aussi belle que cruelle du rêve d'insomnie, Deleuze revient sur l'idée que ce rêve, il faut le faire, comme nous y invitait le texte que tu as lu de François. Le rêve de l'épuisé, de l'insomniaque, de la boulique, n'est pas comme le rêve du sommeil qui se fait tout seul dans la profondeur du corps et du désir. C'est un rêve de l'esprit qui doit être fait, fabriqué. C'est-à-dire face œuvre, si peu que ce soit, mais inéluctablement, selon l'adage de Beckett plusieurs fois convoqué, imagination morte, imaginée. Ainsi, écrit Deleuze, faire une image, de temps en temps, l'art, la peinture, la musique peuvent-ils avoir un autre but? Il a écrit « art » avec un petit « a ». Il précise « on n'inventera pas une entité qui serait l'art, cette fois avec un grand « a », capable de faire durer l'image. L'image dure le temps furtif de notre plaisir, de notre regard. » Dans cet écart de la majuscule et de la minuscule, c'est la revendication d'un art mineur inlassablement réitéré, ou plus précisément d'un usage mineur de l'art qui est réaffirmé, dont le minimalisme beckettien offre un exemple extrême qui semble presque incomparable. Mais en même temps, il suffit à Deleuze de l'évocation émue d'une petite sculpture de Liechtenstein et d'une note soulignant que la dissipation de l'image ou de la figure apparaît en des termes très voisins dans la peinture de Bacon, pour que ce qu'on peut appeler l'art moderne se trouve saisi dans cette vision. Il suffit du rappel de la devise fameuse de Godard, « juste une image », chez cet homme qui a fait tellement d'images, des mentions de l'effet de fragmentation propre au gros plan chez Bresson, des effets propres au dispositif du zoom dans « Wavelength » de Michael Snow et à la scission voix-image dans le cinéma des Straub et de Marguerite Duras. Ce sont quatre références majeures de l'image-temps, pour que un certain tout du cinéma participe de cette vision. À travers cette convocation variée d'œuvres d'image ou et de son, il s'agit avant tout de viser ce que le langage, trop marqué par le vieux style, serait devenu impuissant à faire. Alors, qu'on peut le faire sur la surface de la toile peinte, comme Rembrandt, Cézanne ou Van Velde, ou sur la surface du son, comme Beethoven et Schubert. Beethoven et Schubert, dont deux pièces de musique participent avec une délicatesse minimale à la dissipation de l'image, respectivement dans Trio du fantôme et dans Nacht und Träume, deux des pièces pour la télévision. Et c'est ainsi que tout l'art de l'image et du son, dans ses œuvres les plus hautes, se trouve convoqué, ce que Deleuze qualifie si bien de « l'âme de fond propre à l'art ». Et c'est par là qu'au gré d'un retournement final, Deleuze en vient à invoquer chez Beckett ces moments de plus en plus prégnants dans ses compositions littéraires tardives, où s'impose une musique de la poésie lue à haute voix et sans musique. C'est le moment d'un nouveau style, enfin, quand les mots se percent et se retournent d'eux-mêmes pour montrer leur propre dehors. Deleuze achève ainsi son texte sur des exemples tirés des poèmes « Comment dire » et « Cap au pire » dans lesquels Beckett fait bégayer la langue, en traitant le langage comme une matière sonore, d'où le sens n'est pas absent, car les mots ne peuvent qu'y faire sens encore, mais dans laquelle ce sens se trouve comme évanoui à travers les pressions sonores des effets cumulés de la différence et de la répétition. Si bien que la répétition semble y devenir, comme Deleuze l'écrivait autrefois, la différence sans concept. On se demandera peut-être ce que j'ai visé en convoquant ainsi dans un certain détail, critique et clinique, et surtout l'épuisé, dans leur apposition au partage à la fois clair et ambigu de qu'est-ce que la philosophie. C'est avant tout le désir de répondre aux problèmes posés à partir de Malraux, dans le moment final de qu'est-ce que de l'acte de création, et repris dans les premières lignes de la partie consacrée à l'art dans qu'est-ce que la philosophie, sur l'art comme la seule chose au monde qui se conserve, la seule chose qui résiste à la mort. Ce que je veux dire ou suggérer, c'est que la réversibilité plus ou moins constante dans l'œuvre de Deleuze, entre ce qui touche à l'art et ce qui touche à la philosophie, induit une contamination telle qu'on ne peut pas éviter de se poser la question, sans doute sans réponse, mais non moins essentielle, de la philosophie comme art et par là, aussi bien comme acte de résistance que comme chose qui résiste à la mort. Il semble que ce soit le style propre, de cette œuvre dans son ensemble, saisie comme elle l'est dans une tension sans issue entre le vieux style et le nouveau style invoqué depuis l'avant-propos de Différence et Répétition, et cherchant dans l'image de l'art ce que se voudrait idéalement la philosophie, si ce n'était pas là tendre vers sa disparition. Il semble que ce soit cette tension unique qui la confirme le plus proprement en tant qu'art. S'il fallait tenter de lier par un terme aussi bien ce qui qualifie tant d'œuvres d'art et tant d'œuvres philosophiques mises en jeu par Deleuze, que les modes d'approche par lesquels il cherche inlassablement à en faire ressortir la valeur d'expérience et de pensée, la notion de mouvement aberrant, mise en avant par David Lapojade dans son récent beau livre, me paraîtrait la plus appropriée, dans la mesure où elle ressaisit toutes les strates irrationnelles du sans-fond que Deleuze n'a cessé d'opposer à toutes les rationalités du fondement. Je vous remercie.